À 6h41, toute l'info du week-end est sur Europe 1.
Ai-je le droit ? Chaque dimanche matin, Roland Pérez, l'avocat maison, pose cette question et il y répond, bien entendu. Roland, bonjour.
Bonjour Bernard et bonjour à tous.
Écoutez, moi je commence par une question. Qui a voulu exactement se venger de Benjamin Griveaux ? C'est tout à fait légitime de poser cette question puisque l'instruction est en cours sur les conditions de diffusion d'une vidéo qu'on dit intime, à caractère sexuel, donc qui a coûté son retrait de la campagne électorale pour la mairie de Paris. Mais alors, ce matin, on ne va pas proprement revenir sur ce qui reste une affaire tout à fait pitoyable, mais plutôt sur ce que dit la loi en pareille situation. Donc voilà, il y a des images de vous tout nus qui circulent sur la toile. Est-ce que la loi dit quelque chose ?
Alors, la diffusion de toute vidéo intime à caractère sexuel ou non, d'ailleurs, est réprimée. Elle est même réprimée plus durement depuis 2016, car il est sûr que le phénomène s'amplifie depuis quelques années, car les réseaux sociaux n'étaient pas avant aussi prégnants. Et puis surtout, depuis que les USA nomment le revenge porn comme étant véritablement un fléau, ce qui n'existait pas également en France.
Donc, ce qu'on appelle la porno-divulgation au revenge porn, ça veut dire le porno de revanche, en quelque sorte, est donc clairement réprimé par la loi.
Oui. De part, ce délit concernait plutôt les femmes qui en étaient majoritairement victimes, et peu de cas médiatisés, comme celui de M. Griveaux, existaient. Et le délit est de toute façon, que ce soit homme ou femme, constitué dès que le ou les auteurs de l'infraction ont contribué à faire porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement évidemment de la personne concernée,
évidemment.
Consentement qui n'est jamais présumé.
Et dans ce cas, que risquent les auteurs d'une telle diffusion ? On pense bien entendu au russe Pavlevski, puisqu'il a reconnu que c'est lui à la base.
Alors, les auteurs et ceux qu'ils diffusent risquent 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende, outre évidemment des dommages-intérêts qui devront être réglés à la victime piégée la plupart du temps.
D'accord. Et donc, ce n'est pas, si je vous suis bien, la captation ou la réception de ces images qui fait délit, mais bien la diffusion.
Alors, la captation pourrait l'être si elle a été faite à l'insu de la personne,
oui.
Mais il est vrai que la loi réprime surtout tous ceux qui diffusent la vidéo, les premiers d'ailleurs comme les derniers qui la publient, la transfèrent, la relaient comme on dit, ils sont tous passibles du délit d'atteinte à la vie privée.
Et donc également, si je vous comprends bien, Roland Pérez, les hébergeurs de sites. Par exemple, si ça passe par Instagram ou par Facebook et tout ça.
La responsabilité des hébergeurs de sites se fera toujours en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils aient été mis en demeure et prévenus de l'existence de cette vidéo et qu'ils ne l'aient pas retirée dans les meilleurs délais.
D'accord.
Et à partir de là, leur responsabilité pourra être mise en cause.
Ok, c'est leur non-action qui peut être éventuellement sanctionnée. En la matière, est-ce qu'il y a eu beaucoup de condamnations déjà en France ?
Il faut savoir que ça commence vraiment à inquiéter les pouvoirs publics, car le phénomène s'amplifie avec à la clé quasiment jamais de prison jusqu'à présent pour les auteurs reconnus coupables, tout juste des sanctions financières. Mais peut-être qu'avec l'affaire Griveaux, il est à parier que les condamnations vont se durcir et amener peut-être ceux ou celles qui n'osaient pas s'en plaindre de le faire dorénavant.
C'est possible, tout à fait. Merci beaucoup Roland Pérez. Bonne semaine juridique.
Merci.